Jeudi 14 décembre 2017. Bonjour, chers auditeurs de CILS FM 107,9. C'est Alexis Gagnon au micro, ravi de vous retrouver. Après avoir terminé sa saison 2 le 31 août dernier, juste avant la rentrée d'automne, l'émission d'information Le Débrief est de retour. L'émission reprend du service. C'est avec plaisir que je vous l'annonce aujourd'hui, en cette fin d'année, que je vous souhaite heureuse et festive. Le Débrief se met en mode rétrospectif. On regarde dans le rétroviseur, on remonte dans le temps pour réexaminer les grands dossiers d'actualité qui ont jalonné le calendrier 2017. Et si vous avez suivi Le Débrief saison 1 et saison 2, vous savez de quel dossier on parle. Ce sera dans les prochaines émissions. Donc, on va commencer aujourd'hui avec la première de cette série d'émissions. La priorité au cours de ce débrief formule rétrospective sera donnée aux longues entrevues. Il sera question d'enjeux politiques, économiques et sociaux, vous le devinez, mais aussi de sujets culturels. C'est le cas aujourd'hui avec Pierre Pageot. Une interview de fond avec Pierre Pageot que nous allons entendre dans un instant. Pierre est critique de cinéma, essayiste, programmateur de salles et habitué du Festival de Cannes. J'ai eu la chance de l'avoir au bout du fil il y a quelques jours pour parler de cinéma québécois, de cinéma canadien et de cinéma mondial. Bonne écoute à tous. À tout de suite. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Merci d'être à l'écoute, chers auditeurs. Aujourd'hui, on se fait plaisir dans le cadre de cette revue de l'année. Le débrief est en mode rétrospectif, comme vous le savez, et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Pierre Pageot. Bonjour Pierre.
Bonjour Alexis.
Alors, c'est vraiment un plaisir de te rejoindre à Montréal. Rappelons aux auditeurs que tu es cinéphage, cinéphile,
oui,
spécialiste du cinéma, voilà. Tu as enseigné...
Vie, c'est ma vie, c'est toute ma vie est là.
Voilà, donc confession, dès le départ, cinéma, c'est la vie, oui, de Pierre Pageot. Donc, il a enseigné, tu as enseigné le cinéma, oui, tu es essayiste, tu as écrit, oui, un ouvrage important sur les salles de cinéma au Québec.
Absolument.
Et tu es un habitué du Festival de Cannes et de quelques autres manifestations cinématographiques. Et tu animes, par ailleurs, une émission, oui, hebdomadaire qui s'appelle « Derrière l'image », co-animée à l'antenne de la radio communautaire Radio Centre-Ville à Montréal. Alors, bonjour Pierre, c'est merveilleux de t'avoir... en fin d'année, comme ça, pour peut-être commencer à dresser un bilan cinéma québécois, oui, cinéma mondial, éléments, quelques notions aussi industrielles pour savoir comment s'est porté tel ou tel titre. Peut-être qu'on peut commencer par le grand temps fort de l'année, le Festival de Cannes. On avait fait un petit bilan en mai. Est-ce, oui, que tout ça a décanté? Est-ce que tes conclusions préliminaires suite au lendemain du festival sont les mêmes?
Non, sont les mêmes. Écoute, ça demeure, je l'ai dit souvent, le festival le plus important, là, dans la mesure où il y a la plus grande quantité de films intéressants qui sont aussi bien en compétition officielle que la section Certains Regards, section Quinzaine et tout ça.
Oui.
Et donc, ça demeure toujours le plus grand festival, à mon sens. Et moi, je les ai tous faits. Donc, j'ai fait Venise, Toronto, Berlin. Et bien, Toronto serait, je pense qu'on avait mentionné au mois de mai aussi, Toronto est cependant, maintenant, pour quelqu'un qui voudrait s'économiser du temps et de l'argent, s'il choisissait un seul festival, il pourrait choisir Toronto. Parce qu'à Toronto, tu as souvent parmi les meilleurs films de Cannes, tu as, oui, les meilleurs films de Venise qui vient de se terminer la semaine précédente, et donc Locarno, et donc tu as plus évidemment des nouveautés américaines, nord-américaines, mm, et donc maintenant Toronto est vraiment assez particulier. Peut-être te mentionner, puisqu'on parle de Cannes, j'ai reçu un courriel il y a deux semaines, cette année qui vient, là, donc Cannes 2018, il va y avoir un changement assez important.
Ah.
Et que, je ne sais pas si on avait mentionné au mois de mai, mais l'an dernier à Cannes, il y a deux ans, mais l'an dernier, les directeurs du festival, comme M. Thierry Frémaux,
oui,
et compagnie, On fait des sorties dans les journaux, c'était, on pouvait lire ça dans le Nice ce matin,
oui.
Qu'ils étaient bien tannés en bon québécois, découragés du fait que les journalistes allaient voir un film le matin à 8h30 et que là, tout de suite, évidemment, les critiques paraissaient aussi bien dans les journaux que les sites Internet. Et parfois, les critiques étaient très, très, très méchantes. Hein. Les gens n'avaient pas aimé le film. Et pourtant, le soir, c'est la grand gala avec les invités, tout le monde habillé en pingouin et les vedettes. Et là, tout à coup, il y avait un buzz qui s'était mis contre le film. Et là, ils avaient menacé de ne plus présenter les films
en matinée.
Aux journalistes le matin. Mm. Et là, ce que j'ai bien compris, cette année, ils vont même faire un peu cela. C'est-à-dire que le mardi, c'est nouveau, il n'y a jamais eu de festival du film le mardi, ça débutait au mieux le mercredi soir, mais dans les fêtes, surtout le jeudi. Et là, le mardi soir, j'ai bien compris, ils vont faire comme une espèce de gala pour un film. Et je pense avoir compris que le film, celui-là, n'aura pas été vu le matin, il va être le lendemain. Alors, ils ont un peu trafiqué et ils veulent éviter un peu les critiques trop méchantes.
Oui.
Je les comprends parfois, mais il y a des films aussi à Cannes parfois qui sont pas... Hein, tu sais, tu as été... la moyenne au bâton, là, parlons baseball, elle est très bonne, la moyenne au bâton. Des films à Cannes, elle est excellente, exceptionnelle, mais parfois, bon, il y en a pour toutes sortes de raisons qu'on aime moins. Et donc, là, Cannes va changer un peu cette année.
Mais justement, Cannes 2017, quels titres te sont demeurés vivement en mémoire depuis mai?
Ah, mon Dieu, écoute, ben c'est sûr que la Palme d'Or, le film The Square, film suédois, qui était une comédie, c'est assez exceptionnel, des comédies qui remportent la Palme d'Or. Et moi, je l'ai trouvé assez intéressant. Et donc, l'humour servait un propos ici... critique là, de certain snobisme d'art contemporain et aussi de contradiction entre les valeurs qu'on a et la vérité quand parfois tout à coup on veut être généreux, humain, compréhensif et tolérant et lorsque tout à coup on se fait voler son portable et son porte-monnaie, on devient extrêmement intolérant. Alors donc, le personnage principal vivait ces contradictions-là. Donc, mais parmi les meilleurs films, je dois dire que cette année à Cannes, ils étaient dans la section Un certain regard. Il y avait un film d'un tout jeune cinéaste soviétique, mon Dieu, j'oublie le nom.
Soviétique, film, Pierre.
Tesnota.
Russe, un russe.
C'était vraiment excellent. Et donc, souvent... C'est pas nécessairement... Ben, il y a eu quelques films en compétition officielle qui étaient forts.
Oui.
Souvent, dans les autres sections, tu sais, il faut aller voir aussi ailleurs. Hein, tu sais, Semaine de la critique, il y avait un film iranien qui s'appelait Téhéran tabou, qui était fait en rotoscopie d'une forme d'animation.
Oui.
Et, qui était un film sur la schizophrénie iranienne, là, de... D'un côté, les mollahs qui dirigent et qui semblent créer un pays extrêmement religieux et respectueux de tous les codes de l'islam. Mais
en surface.
Le vécu des gens, et dans le film, on le voit très bien, il est assez contraire à ça. Et ça, c'est un film que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Et c'était, donc, il me semble que c'est la semaine de la critique. Et ça s'appelait donc Téhéran tabou. Évidemment, c'est des cinéastes iraniens qui tournent en exil plus souvent qu'autrement. Ils veulent parler de leur pays parce que tout de même, ils sont... demeurent attachés, c'est leur pays de naissance, mais pour tourner leur film, ils sont obligés de le tourner à l'extérieur de l'Iran, parce que ce qu'ils veulent dire sur l'Iran ne serait pas accepté et tolérable. Alors, il y avait deux, trois films comme ça, il y avait un autre film iranien aussi, en certains regards, qui était dans le même esprit aussi de critique du système même politique ou politico-religieux de l'Iran. Bref, il y a des films qui... qui nous restent et qui, je pense, vont passer le test du temps, je crois.
Ben, pour revenir brièvement à The Square, on peut se réjouir de ce que les gens de Victoria auront eu la chance de le voir.
Oui.
Certains de nos auditeurs l'auront vu ce mois-ci, décembre, juste avant les fêtes. Il était effectivement programmé au cinéma Vic Theater. Cinéma qui met un peu l'accent sur le répertoire et le cinéma indépendant international. Alors, parfois, ça se rend jusqu'ici. Assez souvent, bon, il faut évidemment que le film soit couronné de toutes sortes de récompenses et de prix.
Et qu'il soit accessible aussi, comme je te dis.
Oui.
C'est sûr qu'il y a Il y a la Palme d'Or, il y a 2-3 ans, le film de Bill Gershon, comment ça s'appelait?
Difficile d'accès.
Sommeil d'hiver. Tu sais, c'est comme, moi j'ai beaucoup aimé, mais j'avoue que tu peux vider ta salle de cinéma. Tu sais que maintenant, je suis aussi programmeur d'une petite salle de cinéma. C'est le genre de sensibilité que j'ai développée maintenant, oui, en pensant à des films. Mais The Square est un film, je crois que la majorité des spectateurs vont sortir en ayant apprécier l'humour et,
oui,
et la vision du monde que le cinéma se propose, qui c'est pas un humour vide, là, c'est pas un humour factice, c'est quand même, ça repose sur des questionnements de
c'est...
un nombre de valeurs.
Oui, c'est profond.
Ça peut, je pense, mériter vraiment le détour.
Le rare film qui peut à la fois remporter le prix du public et le grand prix du festival, c'est-à-dire la Palme d'Or. Ça, c'est,
voilà, c'est ça.
Un rare événement. C'est d'ailleurs un film qui met en vedette Elizabeth Moss. Moss, dis-je bien, excellente actrice qu'on a vue dans la série Mad Men, bien sûr, mais aussi, ouais, dans une série qu'avait produite Jane Campion, la néo-zélandaise,
oui,
qui s'intitule Top of the Lake, excellente série, avec, oui, des accents un peu David Lynchien. Donc, Elizabeth Moss ici, qui est en situation de plutôt comique, donc une comédie. C'est bien qu'on voit aussi tout le spectre de son jeu, toute la palette de ce qu'elle peut faire. Autrement, dans les sections parallèles, comme Acide ou La Semaine de la Critique, La Quinzaine, est-ce que tu avais remarqué des choses cette année à Cannes?
Ben, comme je te dis, cette année, faut que tu saches que j'avais un travail de jury. Hein. J'ai demandé, oui, pour être un jury FIPRESCI, la presse internationale.
Oui.
Et on m'avait assigné la section Un certain regard.
Génial.
Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est quand même beaucoup de films. C'est 2 films à tous les jours. Parfois, il y a 3 films. Il y a une journée à 3 films. Je me souviens, c'était. Il y en avait un qui avait été programmé très tard le soir, ce qui ne faisait pas tout à fait mon affaire. Et, et donc, ce qui fait que donc j'étais un peu limité là, dans mon possibilité d'aller à l'extérieur. Mais je t'ai parlé d'au moins Terrain Tabou, puis quand,
oui,
j'ai dit, peut-être un ou deux autres aussi que j'ai vu dans ces sections-là qui méritaient le détour. Mais bon, écoute. On peut pas non plus tout voir, hein. Tu sais très bien, on est confronté à des choix régulièrement,
oui,
parce que bon, tout le monde veut voir d'abord les films en compétition officielle, parce que c'est comme ceux qui sont le plus cotés d'une certaine façon. Et puis ensuite, ben, on essaie de trouver le temps de voir les autres, mais il faut aussi trouver le temps de se reposer. Puis,
oui.
Hein, il y a une limite.
Pour être allé à Cannes quelques fois et t'avoir côtoyé, je sais que tu peux aller jusqu'à 5 films par jour. Alors, c'est pas pour rien que je disais cinéphage au début, oui, de l'entrevue.
Tu sais, je pense que je t'avais raconté, la première année que je suis allé à Cannes, j'étais en fait colocataire parce qu'il faut toujours se trouver un logement le moins coûteux possible. Avec Luc Perrault, le critique,
oui,
de la presse.
Le regretté,
Luc Perrault. Lui, c'était sa dernière année. Moi, c'était ma première. Lui, à ce moment-là, il n'était plus journaliste à la presse, mais il voulait quand même. Et Luc Perrault était vraiment, lui, un dangereux cinéphage.
Oui.
Moi, je le suivais. Alors, effectivement, on a fait des journées à 5 films. En fait, je ne fais plus ça. Je te le dis, c'est fini. Non, c'est un peu ridicule. Mais je l'ai fait avec Luc Perrault. Et c'était assez, ouais, c'était vraiment un marathon.
C'est très exigeant.
Assez exigeant. Non, je ne fais plus ça, je peux t'assurer. Maintenant, peut-être 4 films, oui, c'est possible. 4, ça a encore du sens. Ça peut encore se placer 4 films, là, un le matin, 2 l'après-midi, 1 le soir. Mais là, j'essaie de rentrer à mon appartement là pour être dans mon lit vers au moins 10h, 10h30, et le lendemain matin, tu sais, faut
pour avoir la force de repartir.
Tu sais qu'il faut, oui, aussi à Cannes, bon, on est 3 milliers de journalistes avec nos cartes, puis il faut essayer de se trouver une place.
Oui.
Alors donc, il faut aussi arriver le matin assez tôt pour se trouver un endroit potable dans la salle et pas être pris au balcon, au fond du,
oui,
balcon. Alors, donc, ça peut arriver aussi, en particulier à la salle de Bussy, là. À la grande salle Lumière, ben, tu le sais, là, c'est une salle de 3000 places, là, tout va bien.
Oui.
Mais quand les films sont projetés le soir à la salle de Bussy, parce que bon, la grande salle est prise pour le gala, ben là, tu sais, il y a beaucoup
c'est
moins
problématique.
De problématique. Tu te souviens, et donc, à la salle de Bussy, là, il faut être certain de de se placer en ligne. Le Cannes, c'est...
Oui. Et il y a tout un écosystème, toute cette faune-là aussi, il y a une hiérarchie des badges, etc., etc. Dis-moi, est-ce que on a eu une belle représentation québécoise à Cannes en 2017? Est-ce qu'on a eu par ailleurs des films canadiens anglais?
Pas vraiment, il n'y a pas eu grand-chose. Écoute, le plus beau film, c'est tout film d'animation, Tesla.
Oui.
Un Rankin, qui est en fait un cinéaste de l'Ouest.
C'est un Montréalais,
canadien.
Non?
Hein? Ah, oui, mais qui maintenant vit au Québec. J'ai fait une entrevue avec lui. Il s'exprime super bien maintenant en français.
Oui.
Et son film d'animation, Tesla, qui fait référence à ce...
À l'inventeur.
L'inventeur aussi, assez original.
Oui.
Et qui est, et donc, lui a eu, des très bons échos. Je sais, j'ai voulu faire un peu d'entrevue avec lui. Et puis, la personne qui est en charge de son booking m'a dit, écoute, Pierre, ici à Cannes, oublie ça. Il dit, je vais te le promettre à Montréal à son retour. Et c'était comme là, il y avait eu un buzz. C'est seulement un court film d'animation, tu sais, mais les gens ont appris. Il y avait aussi un film, un court métrage qui s'appelait Crème de menthe, en tout cas, qui était dans la quinzaine de réalisateurs.
Oui.
Pas produit grand effet, mais bon, non, cette année. L'an prochain, tu sais que là, tout le monde attend le film de Xavier Dolan, ça dépend,
oui.
Dolan pour les Français. Et là, lui, Xavier, son film, il devait être terminé même pour Cannes l'an passé. Il n'a pas été. Tout le monde l'attendait à Toronto, mais il a dit qu'il n'avait pas terminé son montage. Mmh. Et là, les premiers échos arrivent pour le Festival de Berlin. Il n'est pas là. Fait que moi, je pense que
Xavier, oh là là.
Qui est un amoureux fou de Cannes, va penser The Life and Death of Donovan. J'oublie le titre.
Oui.
C'est son premier film tourné en anglais. Il fait des grandes vedettes des comédies.
Oui. Il est attendu au tournant, là, avec
oui,
ça.
Oui, puis aussi, Denis Arcand a annoncé qu'il tournait un film. Là, il l'a tourné, là, septembre, octobre, novembre. Ça s'appelle Le Triomphe de l'argent.
Oui.
Il retourne un peu à ses premiers films. Ça rappelle un peu quasiment La maudite galette et tout ça.
Oui.
Et là, je suis certain que là, M. Denis là, veut réparer le problème du règne de la beauté qui n'a pas été accepté. Et je pense qu'il va viser, Cannes. Alors, peut-être que cette année... il va avoir une plus forte représentation de long métrage, au moins. Puis il y en a toujours d'autres qu'on ne soupçonne pas, là, qui évidemment, ou en particulier la quinzaine de la semaine de critiques, sont souvent aussi intéressés par des cinéastes québécois, là, moins cotés, là, Stéphane
oui.
Lafleur, je ne sais pas trop, Sébastien Pilote, puis ils peuvent aussi bien choisir leur film. Mais enfin, on verra. Moi, j'en suis pas rendu là.
Oui, enfin, il est encore un peu tôt pour les pronostics. Vous écoutez l'émission Le Débrief, édition du jeudi 14 décembre. Nous sommes en compagnie du critique de cinéma et programmateur de films Pierre Pageot, qui dresse pour nous un bilan de la production cinématographique en 2017. Mais sinon, globalement, l'année 2017 du cinéma québécois, là, nonobstant Cannes...
Je pense cette année, parlons un peu chiffres, parlons un peu industrie.
Oui.
Il y a eu deux gros succès commerciaux importants au Québec cette année. Là,
oui.
Des remakes, là, donc Bon Cop, Bad Cop 2, et puis... Le Père en flic 2. Ces deux films-là ont des 2 millions de spectateurs. Il y a un film, ou c'est un troisième film qui est en fait une coproduction québécoise.
2 millions d'entrées ou 2 millions de recettes guichets, Pierre?
Ah non, recettes, c'est vrai.
OK.
Vrai. Et donc, mais quand même, tu sais, il y a du spectateur derrière
oui.
tout ça. Il y a un film, c'est Ballerina. C'est un film d'animation. C'est une jeune orpheline qui rêve de danser à l'Opéra de Paris, mais qui est en fait une coproduction, ce qui est comme un film
oui.
québécois.
Crystal Film
bref,
était derrière
ce que je veux
ça,
dire, c'est
quoi.
Quand on m'a résumé oui. ça, à la fin d'année, on est toujours préoccupé, les chiffres sortent, combien, quel est le pourcentage de spectateurs québécois qui sont allés voir les films. Et on rêve toujours que ce soit au moins 10%. Les grandes années, ça l'a été.
Oui.
Et les mauvaises années, ça a été 5-6%.
Oui.
Et là, je pense qu'on peut déjà annoncer que l'année 2017 sera une année où au moins 12, 13, 14 % de,
wow.
de fréquentation aurait été, mais c'est beaucoup, tu sais, si au Canada c'est... anglais, on a, ben, au écoute... Canada anglais, là, vos amis de Victoria, on leur disait que des films de Cronenberg ou,
oui.
tu sais, Goyan ont fait 14 % de
part de marché.
Ça serait ahurissant.
Oui, alors pour
Et donc, l'aspect industriel s'est bien porté cette année, ça, c'est une première affirmation. Qu'on peut faire.
Mais juste pour mettre en perspective, Pierre, les cinématographies nationales qui dépassent les 15% se comptent sur le doigt de la main sur la planète. Hein? Donc, il y a les Coréens, il y a les Français, il y a l'Inde.
Un grand pays comme la France, tu sais, c'est surprenant quand les chiffres sortent à la fin de l'année, là, en France, je m'excuse, les amis français, je respecte énormément la cinéphilie du français moyen, eh bien, les chiffres sont que c'est les Américains, c'est les films américains qui ont obtenu la plus grande part du marché. Là.
Oui.
C'est pas du tout les films français en France, imagine.
Ben, À la grande époque, ils avaient 30%. Oui.
Hein?
À la grande époque, ils avaient 30% de part de marché, les films français en France. Est-ce que c'est toujours dans ces pourcentages-là?
Oui, je pense que oui. Mais en tout cas, comme je te dis, je sais que dans tous les pays du monde aussi, si tu vas... C'est à part des marchés fermés, probablement que la Chine ou des choses. Et encore là, je sais qu'il y a une pénétration énorme du cinéma américain en Chine.
Oui.
Mais tu sais, dans presque tous les pays, les films américains qui sont, il faut avouer, les films à grand succès, là, toute la série de la guerre des étoiles et compagnie qui n'en finit plus de mourir. Là, quand on va souhaiter
Seigneur
la mort
des Anneaux,
de ça. Là. Mais non, malgré qu'il y a des jeunes spectateurs qui redécouvrent la guerre des étoiles, je crois, à chaque année.
Ouais.
Mais j'allais dire, sur le plan industriel, commercial, distribution, exploitation, le cinéma québécois 2017 s'est bien porté.
Ah, mais c'est une excellente nouvelle, Pierre.
Oui, moi je pense que oui, parce que finalement... tu sais, quand un spectateur est allé voir un film commercial, admettons le Bon Cop, Bad Cop 2, qui est toujours l'histoire évidemment d'un policier québécois francophone et d'un policier anglophone, bon, on joue sur les deux solitudes.
Oui.
Bien, lorsqu'un spectateur est allé voir ce film-là qu'il a aimé, il est possible qu'après, lorsqu'il va arriver un film beaucoup plus difficile, beaucoup plus d'auteur, là, comme
Indépendant,
Boussac qui sort là, présentement, ou je sais pas trop, là. Jeune fille aux allumettes, bon, etc. Je pourrais en nommer plusieurs cette année. Ben, il est possible qu'il puisse risquer aussi et donc faire en sorte que tout à coup, la fréquentation, de même pour le cinéma, appelons-le d'auteur, de répertoire, je ne sais plus quel mot prendre, Alexis, mais que ça donne aussi, je pense qu'il y a des effets à bénéfice. Je crois ça.
Ça rejaillit.
J'ose espérer cela.
Oui.
Et donc, en tout cas, on va voir le bilan aussi, les chiffres quand ils vont sortir, quand toute l'année va être complétée. Là.
Oui.
Les chiffres vont rentrer seulement en janvier ou février là, pour savoir vraiment le vrai bilan de 2017. Mais il y a eu aussi du cinéma d'auteur de qualité. Donc,
tant mieux.
Le total est assez bon, je crois. Là, c'est sûr qu'il y a des problèmes de salles, hein, le nombre de salles. Tu sais que si les gens de Victoria sont infamiliers, il y avait une salle ici de répertoire qui s'appelait le cinéma Excentris.
Oui.
Trois salles sur la rue Saint-Laurent qui a fermé. Depuis ce temps-là, plein de rumeurs. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe au Québec, mais il était question que MK2, la compagnie française, rachète l'Excentris. Bon, finalement, ça ne marche pas. Là, il est question que MK2 récupère une vieille salle qui s'appelait l'Empress, qui est une salle de type cinéma égyptien.
Oui.
Très belle salle là, des années 1920, mais qui est extrêmement détériorée. Je l'ai visitée. Et bon, alors, il y a des projets dans l'air de réouvrir des salles et d'offrir des écrans. Parce que quand les films québécois sortent, quand les films québécois d'auteurs de répertoire sortent, tu sais, finalement, il y a très peu d'écrans pour eux. À Montréal, il y a essentiellement deux salles, le Beaubien, le Parc. Tu sais, il y a Québec, il y a le Clap, bon, et le Tapis Rouge, il y a un peu nous, notre petite salle dans
l'ES.
Et donc...
Claude Chamberlain veut rouvrir
son
cinéma parallèle.
Un mot. C'est possible, ça peut fonctionner. Il a eu un très beau projet il y a un an qui se situait sur la rue Jean Talon. Là, c'était un ancien restaurant italien que eux avaient rafistolé. J'ai vu des photos, Claude m'avait monté des photos. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes d'argent. C'est toujours la même chose parce que Claude avait des exigences sur la qualité des sièges.
Oui.
C'est très beau de vouloir ça, mais là, les monsieur investisseurs italiens ont dit à Claude, non, ça dépasse totalement le budget qu'on avait prévu.
Oui.
Alors là, ce projet de Claude Chamberlain est tombé à l'eau. Là, il y a un nouveau projet, peut-être c'est celui-là dont tu veux me parler.
Au Rialto.
Qui est avec Ezio Corrizzoli, qui est en train de restaurer le Rialto.
Oui.
Super belle salle, là, sur l'avenue du Parc. Et ça, c'est un autre palace, là, des palaces de quartier.
Oui, là, et t'en sais quelque chose pour avoir écrit beau. Sur ces salles cet ouvrage.
Le Rialto et à Montréal, il y a encore quelques beaux palaces, là, l'Impérial, le Rialto. Mm. Et ce monsieur-là,
avec des marquises et tout.
Veut aider Claude aussi pour relancer quelque chose, peut-être avec l'excentriste. Bon, mais tu sais,
moi, on va leur souhaiter bonne chance.
Parce que je l'ai vécu, tu sais, nous, on a ouvert une salle de cinéma, puis je peux t'assurer, j'ai découvert que quand tu crées un lieu physique, il y a plein de règlements municipaux, tu sais. Tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a des pompiers, il y a des policiers qui viennent voir, là, t'as-tu la grandeur, t'as-tu la porte de sortie. Écoute, tu devrais avoir le nombre de règlements auxquels tu dois te conformer quand tu roules. Probablement, c'est vrai pour tous les commerces. Moi, je l'ai vécu pour ma petite salle de cinéma. Et on est très chanceux parce qu'il y a le maire à l'époque de notre municipalité du Mercier-Est, M. Réal Ménard, lui a fait passer rapidement un petit projet de loi à une assemblée pour tout faciliter ça. Alors, quand tu veux ouvrir ou réouvrir une salle, t'es confronté à des règlements municipaux.
Oui. Ben, c'est comme ça un peu partout.
Ça dépend. Si toi, tu décides de faire dans ton salon, au deuxième étage, une salle de cinéma pour tes amis, t'installes un projecteur, puis tu fais quelque chose à l'intime, et même, t'es même pas obligé de respecter les droits d'auteur, et t'es même pas obligé de payer le distributeur. Tu peux le faire. Ça a existé, ça, à Montréal. Il y en a encore une ou deux salles comme ça que je connais, qui sont comme illégales, qui passent du film comme ça. Bon, nous, on fait pas ça. Et généralement, c'est sûr que Chamberlain, lui, ne fera pas ça.
Oui.
Tout ce qu'on peut souhaiter, en tout cas, pour terminer là-dessus, c'est que je souhaite à Claude que ça marche, parce que Claude a toujours défendu un cinéma indépendant de qualité de la planète entière. Et Claude nous a ouvert à plein de films expérimentaux.
Oui. Claude Chamberlain, c'est une figure majeure du cinéma montréalais. Il a fondé le Festival du Nouveau Cinéma il y a plus de 40 ans. Il était à la barre du cinéma parallèle, le cinéma qui était installé sur le boulevard Saint-Laurent, juste au sud de Despins. Voilà. On a ici aussi, Pierre, des cinémas d'auteurs qui ont des difficultés, mais qui arrivent bon an mal an à nous programmer de bons films. Il y a une salle qui s'appelle Ciné Santa, un jeu de mots sur Cinecittà, qui se situe sur le campus de l'Université de Victoria. Un programme relevé, toujours bien, en phase avec les festivals. Il y a aussi un ciné-club qui s'appelle Movie Monday. Donc, tous les lundis, c'est dans une petite salle près de l'hôpital Royal.
Combien de places, Bruno, dans cette salle-là, là, ton Monday? Il y a combien de places?
Je dirais une quarantaine.
Ah, ben c'est ça. Moi, ma petite salle de Mercier, ça, nous avons exactement 40 places.
D'accord.
Si on a des succès, ça arrive parfois qu'on a des films, là, on a le droit de vérifier avec, encore une fois, les règlements municipaux. Et on peut ajouter 10 chaises. On a droit à 50 places, mais on n'a pas droit à 51. Si la police passait, on serait illégal, on aurait une contravention. Mais donc, nous, c'est 40 places.
Oui.
Et pour l'instant, ça nous convient bien. Ça, à l'occasion, on a présenté Les Rois mongols de Luc Picard, et Luc Picard est venu rencontrer les spectateurs.
Wow.
Là, évidemment, là, écoute, là, c'était full house, complet. Là, il a fallu même ajouter une deuxième projection tout de suite après, mais les gens pouvaient entrer et écouter la discussion avec Luc Picard, puis tous les comédiens du film étaient là. Alors, évidemment, quand on a des invités, comme cette semaine, on va présenter un film qui s'appelle « Nous sommes les autres », et là, le réalisateur Jean-François Asselin vient, puis moi, c'est curieux, tantôt, je viens d'écrire l'actrice Pascale Bussière, parce que je connais bien Pascale,
oui.
Et je vais l'inviter, puis je pense qu'elle va venir. Alors, quand on va annoncer qu'on a l'actrice et le réalisateur pour le film vendredi soir, ben écoute, c'est sûr qu'on va...
Oui, ça joue énormément.
On va être full house complet, et donc ça va nous permettre de survivre aussi, de continuer à vivre difficilement. Mais tu sais qu'il y a aussi au Québec un réseau qui s'appelle les cinémas parallèles. Le gouvernement du Québec, le Parti québécois, il y a déjà 10 ans, a décidé d'équiper. Généralement, c'est dans des lieux scolaires, comme ton exemple que tu me donnais à l'université. Là.
Oui.
Dans, ici, dans, tu sais qu'au Québec, on a les cégeps, là, mais en tout cas, les collèges d'enseignement, c'est pas tout à fait high school, mais bon. Et souvent, dans des cégeps ou dans les maisons de la culture, ils ont installé un vrai projecteur DCP. Et là, une fois par semaine, généralement, c'est une fois par semaine, parfois une fois par deux semaines, c'est pas plus que ça. Là, il y a un film de type répertoire et le gouvernement du Québec a investi de l'argent aussi bien dans les projecteurs que dans que dans la programmation. Ça, c'est une façon... Surtout, c'était surtout fait pour les régions. Parce qu'en région, là, quand tu sors, de encore une fois, de
Florida
au Québec,
alors là,
il y a peu de
ça
choses.
Ça devient difficile.
Alors, donc,
il faut s'abonner à ce moment-là à des services
c'est
de
c'est-à-dire
diffusion.
Que là, tu reçois une publicité localement et, et normalement, tu as un forfait pour l'ensemble des films de la session. Je sais pas, il y a 8 longs métrages, 10, je ne sais pas. Et là, donc, encore une fois, tu peux y aller à l'unité, bien sûr, et choisir tous les films. Et donc, ça, ça permet aussi une diffusion, ça permet de sauver certains films qui n'ont pas eu un grand succès dans les salles vraiment commerciales. Ils se sont essayés dans les salles commerciales. Ils ont fait une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis ensuite, il y a une ressortie en région dans ces dans les salles de l'Association des cinémas parallèles. Et là, à ce moment-là, on peut imaginer que des nouveaux spectateurs vont découvrir les films. C'est vraiment... C'est vraiment... Évidemment, les propriétaires des salles commerciales n'aiment pas beaucoup les cinémas parallèles parce qu'ils pensent qu'ils se font voler des spectateurs. Mais la vérité, c'est qu'ils s'en font pas voler tant que ça parce que finalement, ils ne les rejoignent pas vraiment. Puis
ils continuent
d'en faire beaucoup d'argent avec les blockbusters américains. Puis finalement, Guzzo et Cinéplex sont très heureux
Et souvent, ils créent de la cinéphilie, donc ils créent des clients potentiellement pour les salles. Je veux dire, ça rejaillit sur eux de façon positive. Ça pourrait sûrement être démontré, ça. Je veux juste mentionner qu'ici, à Victoria, on a quelques festivals de cinéma. Il y en a un qui se tient en février et qui programme un peu le cinéma mondial. Et il y en a un beaucoup plus confidentiel, beaucoup plus pointu, qui a eu lieu il y a quelques semaines, fin octobre. Et ça s'appelait Antimatter, Antimatière. Donc, c'est un film, c'est un cinéma expérimental qui est proposé dans le cadre de ce festival-là. Je pense que t'aimerais beaucoup. Il y a des choses très étonnantes. Il y a aussi des éléments de performance. Alors, il y a du multimédia qui s'inscrit là-dedans aussi.
Oui. Mais tu sais, à Montréal, le Festival du Nouveau Cinéma, justement, l'invention de Claude Chamberlain, c'est développé dans ce sens-là. Là.
Exact.
Aujourd'hui, le Festival du Nouveau Cinéma, ce n'est plus que des films. Hein, vraiment, c'est tout ce dont tu viens de me parler. Là, toutes les formules d'écoute, de web, de multimédia, tout est là parce qu'on n'a pas le choix.
Ouais,
même le Festival de Cannes, tu sais que l'an dernier, au Festival de Cannes, là, parmi les choses que je voulais en voir, c'était la première mondiale de la série Twin Peaks.
Exact.
Avec David Lynch, donc, et maintenant, les séries, les grandes séries télévisuelles américaines ont droit à un espace... Il y avait aussi une installation là de le cinéaste de Babel, là, j'oublie son nom, qui donc était comme géophysique aussi, paraîtrait que c'était pour faire sentir la difficulté d'être l'immigrant qui arrive aux États-Unis et qui est très mal accueilli. Bon, bref, tout ça maintenant, c'est l'avenir ou le présent même du cinéma, puis c'est comme ça que ça existe ici aussi.
Tout à fait. Vous êtes toujours dans l'émission Le Débrief, édition du jeudi 14 décembre. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du critique de cinéma et programmateur de films, Pierre Pageot, que nous joignons à Montréal. Pierre nous dresse un bilan de la production cinématographique en 2017. Bonne écoute.
Thank you.
Parlons un peu du rayonnement de notre cinématographie. Donc, le rayonnement du cinéma québécois et des cinéastes québécois et des cinéastes du Canada anglais. Peut-être peut-on démarrer avec Denis Villeneuve. Quelle année pour lui formidable. Il a eu le privilège de réaliser un genre de sequel au film classique Blade Runner.
Et on sait que c'est Ridley Scott, hein, qui est toujours vivant, qui est le réalisateur original, qui est devenu comme producteur. C'est lui qui a comme choisi Denis Villeneuve. Déjà, pour moi, d'être choisi par Ridley Scott, c'est tout de même
énorme.
Une bonne référence. Et le film n'a pas eu succès, évidemment, escompté. Là, j'ai su que Denis était un peu déçu, mais bon, écoute...
Le succès d'estime, tout de même, a été au rendez-vous.
Arrival, il est maintenant tout à fait dans les tops parmi les réalisateurs. Jean-Marc Vallée aussi, hein, il a bien fait son nom, là, Dallas Buyers Club, etc. Et puis,
mais il y a Elisabeth,
j'oublie le nom, il y a une série télévisée qui a fait là, avec Nicole Kidman et tout ça, et qui a eu un énorme succès.
Oui.
A remis des prix de la télévision américaine. Il a mérité des prix du meilleur réalisateur, Jean-Marc Vallée. Ah, donc, il y en a d'autres aussi hein, qui tournent aux États-Unis.
Bien, évidemment, Xavier Dolan.
Les canadiens. Oui, Xavier, comme on dit, son tout dernier long métrage, il l'a tourné strictement en anglais. Et il y en a bien hâte de le voir. Oui, écoute, il y a toujours une forme de rayonnement, là. Et puis, comme tu dis, il y a des festivals. Maintenant, il y a des festivals du film partout, là, dans le monde, en moindre ville, parce que dans les pays, il y en a. Et là, c'est surprenant. Moi, parfois, je reçois la liste. Tu sais, il y a des cinéastes québécois qui font des films d'auteurs qui n'ont pas un énorme succès. Je pense en particulier à Denis Côté, par exemple, ici. Et localement, mais à l'étranger...
Ils sont très connus, très réputés.
Denis Côté, écoute, mon gars, Locarno à Rotterdam, c'est un dieu.
Oui.
Autant, sinon plus que Xavier Dolan. Et donc, on vient de voir son tout dernier film, là, son documentaire, qui s'appelle « Ta peau si lisse » là, sur les culturistes.
Oui.
Et je dis documentaire, c'est mi-expérimental, mi-documentaire. Et donc, ces séances-là, c'est surprenant comment ils ont... Ils sont connus et reconnus presque plus à l'étranger que chez eux, tu sais. C'est peut-être même vrai, tu sais, pour quelqu'un comme Egoyan. Egoyan, je me souviens, à Cannes, un peu moins aujourd'hui.
Atom Egoyan,
il a perdu un peu de son lustre, Atom. Mais à une époque, je me souviens, il y a quelques années, écoute, c'était... Puis tu venais ici, pour Canada anglais, ben, tu avais l'impression qu'il n'était pas si reconnu. Et pourtant, c'était vraiment très, très, très original.
Le proverbe « Nul n'est prophète en son pays » s'applique...
Je crois que ça s'applique à plusieurs sciences canadiens. Puis je vais prendre le mot « canadien » parce que je veux englober, bien sûr, tout le monde... francophone, anglophone et petit cinéaste indépendant et cinéaste plus gros là, comme Denis Villeneuve. Mais là, lui, Denis est en train de devenir bien reconnu.
Oui, là, il s'attaque à Dune, le roman de science-fiction qui avait été adapté par David Lynch, Nagar. Ouais. Alors ça, c'est vraiment une autre réalisation très ambitieuse.
Il était approché pour faire le prochain James Bond. Si vraiment c'était le cas, c'est énorme aussi.
En effet.
Quand on t'a choisi, parce que là, c'était un film avec un budget énorme, et là, les effets spéciaux, il était capable de faire beaucoup d'effets spéciaux avec Blade Runner, ça va de soi, mais avec un James Bond aussi, pour lui, ça fait un cinéaste qui va avoir des capacités cinématographique au-dessus de la moyenne. Donc, à partir de ce moment-là, Denis va être complètement happé par le grand système international. Il est venu au Québec aujourd'hui même, tu sais, à la télévision tantôt. Là, il recevait un doctorat honoris causa de son université.
Ah
il
bon?
Il étudie en cinéma à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal.
Ah, c'est fait, ça. C'était aujourd'hui.
Oui, c'était aujourd'hui.
D'accord.
C'est là on parle de Denis et tantôt à la télé, j'ai vu... l'image de Denis qui était revenu à Montréal pour recevoir son doctorat honoris causa. Et donc, lui, il dit toujours qu'il veut... De toute façon, tu sais qu'il tourne, il fait tout le montage à Montréal. Hein, comme Jean-Marc Vallée. Jean-Marc Vallée tourne aux États-Unis. Je le sais, parce que je connais Jean-Marc, un de mes anciens élèves. Et donc, là, Jean-Marc, il ramène tout chez lui. ici à Montréal. Il fait tout le montage. Il invente des noms. Là. Le monteur, c'est pas, il s'invente des noms comme quoi, mais c'est lui qui fait le montage. Et Denis Villeneuve fait la même chose. Donc, ils rapatrient beaucoup de
travail
aussi au Québec. Et je sais que l'un et l'autre vont vouloir un jour revenir tourner un film avec un contenu, peut-être un langage aussi plus spécifiquement canadien ou québécois,
oui.
Peu importe. Là. Et ils auront à ce moment-là acquis une virtuosité hein, très grande. Ça va leur permettre peut-être de faire des objets filmiques canadiens assez exceptionels, je crois. On peut
ça
rêver
promet.
Un peu.
Ça promet. Oui, rêvons. Pierre, il y a un autre phénomène qui ne ressortit pas de la création, mais qui a fortement impacté la planète cinéma cette année. C'est la chute du titan Weinstein.
Ouais.
Est-ce que cela peut, vu l'échelle de l'événement, affecter la production de certains titres?
Tout ce que je peux te dire, c'est que tu sais qu'à Cannes, il est toujours là chaque année. Hein? Il y a un an ou deux, c'est assez curieux. D'ailleurs, il y avait un film hommage à Cannes et Thierry Frémaux le présente. Et Thierry Feinstein était comme peut-être 5-6 rangées en arrière de moi.
Oui.
Là, je me suis levé pour applaudir, puis là, je me suis retourné, puis là, j'ai fait un signe de la main, puis lui aussi, c'est comme s'il me connaissait, mais il me connaissait. Donc, bref, l'anecdote est peut-être inutile, mais j'allais dire que lui et Cannes, ça fait qu'un. Ses films, il veut toujours qu'ils soient à Cannes, c'est un défenseur de la présentation de ses films à lui, là, américain, au Festival de Cannes. Et j'ai l'impression que Cannes va peut-être s'en ressentir cette année. Cannes va pouvoir trouver... Tous les festivals du film du monde ont besoin de films américains parce qu'ils ont besoin de la présence des acteurs et des vedettes américaines pour attirer des journalistes. Et j'ai l'impression que cette année, Cannes va possiblement être affecté par ce dont tu parles, le fait que Weinstein a été dégommé au complet, là, qu'il n'est même plus présent.
C'est un paria.
Moi, ce que
désormais.
J'ai compris, c'est que la compagnie va même changer de nom. Son frère aussi a laissé tomber le bateau. Et donc, j'ai l'impression que ça fait de voir des effets... concret, ça peut naître un. Pour le reste, écoute, la machine hollywoodienne, je pense, soyons bien clairs, peut à la limite se passer de Weinstein. Tu sais, il y a d'autres énergies qui existent là-bas. Il y a d'autres réalisateurs qui tiennent à faire leurs films aussi. Spielberg va continuer à faire ses affaires là, de pause et tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de problème pour que l'industrie s'en remette. Mais écoute, c'est sûr que toutes ces questions-là, ça a affecté d'autres, tu sais, Kevin Spacey et tout ça. Là, il y a des acteurs, des actrices qui sont visés dans ces scandales. Le seul qui n'est pas assez visé, c'est le président Trump, mais ça, c'est mais donc, oui, il y a toutes sortes d'effets comme ça. Je pensais que tu me parlais aussi de Netflix, tu sais, nous, au Québec, je ne sais pas comment ça a été vécu, Canada.
Oui,
mais nous,
très...
on en veut beaucoup, Mélanie Joly, de
la ministre du patrimoine canadien, oui.
Parce que nous, au Québec, on considère que la promesse du 25 millions, en fait, c'est 5 millions par année sur 5 ans, c'est des peanuts, puis ça va évidemment aller à un film qui va être tourné peut-être par un cinéaste québécois, mais qui va être tourné aux États-Unis en anglais.
Oui.
Et pour nous, amène strictement rien à la viabilité d'une culture nationale. Et donc, pour nous, Netflix a le droit d'exister, ça, il n'y a pas de problème, c'est très bien que ça existe. Et que ça soit disponible, mais que ça puisse, encore une fois, le faire impunément. Ici, là, faut, je pense que...
Il faut se souvenir qu'ils ont bénéficié d'une exception. Alors, ils ont été dispensés de payer, de charger les taxes sur leurs services. Alors, ce qui rend leurs services plus attrayants.
Il y a des pays européens qui le font, qui donnent la leçon. Bref, je veux juste mentionner ça. Peut-être
tu fais bien. Tu fais bien.
Mais il faut que tu saches que ici, le rapport à ce géant du cinéma, de l'audiovisuel, ça a été très mal reçu. On est très porté, nous, sur la défense là, de nos intérêts, peut-être...
culturels, oui.
Ça paraît locaux, mais nous, c'est notre chanson, notre musique, nos films, et donc... on y tient beaucoup, beaucoup. Hein. On est
Ça pose la question.
On se bat toutes les semaines pour exister. Et donc, Netflix, on perçoit ça comme comme quelqu'un qui, évidemment, non seulement ne nous aide pas, mais probablement va nous nuire. Alors, juste mentionner que dans les phénomènes comme ça, paraphine comme tel, c'est un phénomène.
C'est important. C'est
un élément qui a joué un rôle ici au Québec.
C'est important. Et Mélanie Joly a très mal défendu sa position dans les médias.
Écoute, c'est...
Il y a une perception de favoritisme
madame-là, au Québec, écoute, puis Infoman, puis la télévision qui s'en moque toutes les semaines, c'est je sais pas quelle est l'image au Canada anglais, mais ici, l'image, c'est quelqu'un d'extrêmement faible, qui a pas été capable de se tenir debout, qui a probablement accepté ce qui venait d'en haut de M. Trudeau ou ses acolytes, mais... En tout cas, ça, c'est un autre élément. Un autre enfant, c'est justement ancien de cinéma québécois qui va jouer un rôle assez important. Monique Simard, qui était la présidente de la SODEC, qui va voter probablement, là, a conclu une entente avec le CNC, le Centre national de cinématographie en France. Tu sais, c'est quoi, là? C'est la plus grosse structure de production. Tout le monde qui va voir un film en France, ils prennent l'argent sur le billet, ça va là, ça aide à produire les films, des premiers longs-métrages, ça aide à circuler la distribution. Ils contribuent à des festivals de films français. Alors, bon, le Centre national de cinématographie, c'est majeur. C'est un gros joueur. En fait, c'est le plus gros joueur avec Unifrance, mais le plus gros joueur. Et il y a une entente qui a été scellée là, dans le cadre du Festival Cinémania. Et donc, le Québec va profiter d'un certain nombre d'avantages. Eux vont venir aussi collaborer à des productions. Je pense que c'est un plus, définitivement.
Oui.
Le cinéma québécois va pouvoir avoir des antennes et
des perspectives,
possibilités de production et de diffusion agrandies à cause de ce partenaire, ce partnership de qualité avec le Centre national de la cinématographie. On va juger les fruits, on va juger l'arbre avec ses fruits. Évidemment, ça vient tout juste d'être conclu.
Oui.
Je pense qu'il y a lieu de croire que ça va être positif pour nous, probablement aussi pour la France. Et parce que aussi, les films français, ils considèrent qu'ils ne rejoignent pas assez le public québécois. Ils veulent aussi venir entrer et pénétrer davantage le public québécois. Alors, eux ont leurs intérêts, puis nous, on a les nôtres. Puis je pense qu'on devrait finir par se rejoindre.
Dis-moi, quel titre attends-tu de pied ferme en 2018? Quels sont les films que tu as hâte de voir en 2018? En terminant.
Je pense tantôt, comme je te disais, moi, je pense à Xavier Dolan. Je constate que Xavier Dolan est un vrai, vrai, vrai bon réalisateur. Quand tu revois ses films, et je revois même juste La fin du monde, que j'avais plus ou moins aimé à une première projection, c'est vraiment du grand cinéma. C'est un maître de la caméra, du son, des couleurs. Donc, le Xavier Dolan est pour moi un film que j'attends beaucoup.
Oui, en anglais, visant un public américain.
Et après, non, je sais pas, là... Au Québec, je sais qu'il y a des films qui s'en viennent, un film de Bernard Aymon, qui est un cinéaste très rigoureux, là. Presque jésuite.
Oui, il y a toujours une thématique catholique.
Il fait souvent des films de qualité. Alors, il y a quelques films québécois. Sébastien Pilote aussi, de Lac-Saint-Jean.
Saguenayen.
Le Saguenayen qui nous annonce aussi un long métrage. Je sais que le long métrage est terminé, le tournage est terminé. Ça, c'est pour le Québec. Pour l'universel, je sais pas là, qu'est-ce qui attend. Là. Je sais que Spielberg en s'en vient qu'un film aussi sur le Washington Post puis sur les Pentagon Papers. Et donc, sur dans le fond, il vise Trump, là, c'est clair.
Ouais.
Trump passe son temps à critiquer CNN puis le Washington Post. Alors, j'ai l'impression que Spielberg fait un film qui, indirectement, va défendre la
politique,
liberté d'expression et va viser les critiques que Trump fait contre la Free Press. Et je pense que ça va être un des films aussi à voir, en tout cas.
Est-ce que tu as des échos de Berlin, qui est le premier grand festival du calendrier?
Là, pour l'instant, tu sais, on a eu le film d'ouverture dans Wes Anderson, qu'on connaît très bien. On a vu tous les films. Comme moi, j'ai vu tous les films d'Anderson, qui sont toujours des films, c'est des films américains, mais qui sont comme pas des films américains normaux, là, qui sont un peu surréalistes.
Oui.
Comme les Frank Owen.
Fantaisistes.
Qui font des objets, un peu à part.
Oui, donc c'est Wes Anderson qui va ouvrir la Berlinale 2018.
Ah, c'est ça. Donc c'est ce que je sais pour l'instant. J'en sais pas plus.
D'accord. Et les Oscars? Pronostic Oscar, Golden Globes?
Je sais pas. Je sais que notre Blade Runner semble écarté de la course.
Ah bon?
ça m'affecte un peu, mais je sais pas. Comme je dis, peut-être le Spielberg a le don, puis n'oublie pas, il est avec aussi Meryl Streep et Tom Hanks, donc deux Oscarisables permanents.
Oui, c'est le cas de le dire.
Film, il y a des, en tout cas, Meryl Streep en particulier, elle, dès qu'elle fait un film, elle est souvent nominée, alors je ne serais pas surpris qu'elle le soit encore.
Mais pour les Golden Globes, c'est dans quelques semaines, je crois.
Ouais, non, ça, je peux pas, non, je peux pas vraiment, je m'excuse Alexis, je peux pas me prononcer. J'ai vu quelques films américains, mais je ne sais pas si c'est parmi les ceux qui vont être retenus. Ils ont le don, surtout les Golden Globes, ils ont le don d'aller défendre parfois un film américain qui a même pas connu de succès, qui peut-être ne sera même pas sorti à Montréal ou qui sera sorti tu sais, une semaine.
Oui, ils sont très curieux. Ça,
des films de Golden Globes qui étaient vraiment des films américains presque indépendants, si je puis dire. Et à ce moment-là, ben je les connais pas. Je les ai pas vus. Je peux pas te...
Oui.
Je peux pas risquer.
Ben, t'as forcément des angles morts, hein, si tu t'intéresses surtout au cinéma international, mondial. Tu peux pas nécessairement suivre le cinéma américain à la trace. Rappelons en terminant que les gens de Victoria, bien qu'ils soient à trois fuseaux horaires de Montréal, peuvent entendre tous les samedis, à peu près.
C'est tous les samedis de 11h à midi. C'est Radio Centre-Ville, le nom, donc c'est 130 Trédunionville, et c'est 102,3 FM, je ne sais pas si ça peut aider. Et donc, vous allez entendre parler de cinéma québécois pendant une heure de temps, là, des entrevues des cinéastes. C'est la semaine prochaine, Mario Beaubien, le propriétaire du cinéma Beaubien.
Oui.
Et des livres qui sont publiés. Enfin, il y a une variété de sujets, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'un seul sujet. Donc, en une heure de temps, on a le temps de faire au moins deux, trois invités. Et c'est le contenu qui se précise semaine après semaine.
Alors, pour cinéphiles avertis, donc à l'antenne de Radio Centre-Ville, que l'on retrouve sur le web à radiocentreville.com, l'émission s'intitule « Derrière l'image ». C'est tous les samedis, donc de 14h à 15h, heure de Victoria. Heure de Victoria. Et on aura le bonheur de t'entendre, Pierre, sur toutes sortes de sujets ayant trait au cinéma, à la cinéphilie, à la programmation. Donc, merci de t'être prêté au jeu du bilan rétrospectif 2017. C'est toujours un plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se parler 7e art au courant de l'année 2018.
Moi aussi, Alexis, je suis toujours disponible pour vous.
Merveilleux. À bientôt, Pierre. Merci.
Bientôt.
As-tu vu le Père Noël?
Voilà, encore merci à Pierre Pageot pour ce regard cinéphile porté sur l'année 2017. Nous arrivons au terme de cette première d'une série d'émissions. Le débrief vous accompagne ainsi jusqu'au vendredi 22 décembre. Soyez à l'écoute. C'est Alexis Gagnon au micro. Nous avons actuellement 8 degrés au mercure. Ça descendra à environ 5 degrés en fin de soirée. Et demain, forte probabilité de pluie au réveil avec un maximum de 6 degrés. Pour tous les détails et bien d'autres actualités, syntonisez la matinale demain matin entre 7h30 et 9h. À l'antenne du 107.9, votre fréquence francophone dans la grande région de Victoria. Je note en terminant que le jazz que nous avons entendu aujourd'hui provient d'un récent album de Noël de l'artiste Émilie Claire Barlow. Sur ce, excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition du Débrief en mode revue de l'année.
Qu'une fois par an, traversant le ciel, porté par le vent. Quand tu entends les cloches du traîneau, sonner, regarde dehors, je viens de voir le Père Noël. L'as-tu vu? L'as-tu vu? À grands pas, il vole, il court. L'as-tu vu? L'as-tu vu? C'est un bon vieux. Où je donne des pommes. As-tu vu le Père Noël? Je viens de voir le Père Noël. As-tu vu la âme.